Chapitre 7. Je ne peux pourtant pas veiller sur le trottoir de la rue du Mont-Tabor pour la prendre par le bras si elle vient là et lui défendre d'entrer, songeait Bassigny en quittant l'hôtel Janson et ce cruel entretien. Il sentait bien ce qu'un pareil parti avait d'extraordinaire, d'extravagant même. Durant cette soirée et cette nuit, il se démontra, non pas une fois mais 20, mais 100, qu'une telle entreprise était aussi dangereuse qu'inutile. Il l'avait compris dès le premier moment que Maxime de Portier se fût espionné, il changerait son appartement de rendez-vous. C'était trop simple. Pourtant, l'instinct de l'action physique et violente est si fort dans certaines crises que, dès le lendemain matin, le père de Nicole battait, comme la veille, le trottoir de la rue du Mont-Tabor. Il épiait l'entrée de la maison suspecte, dont il n'était même pas sûr. Il allait et venait, regardant les devantures des quelques boutiques de cette rue peu commerçante, indéfiniment, la tête engoncée dans son collet de fourrure, quoique la matinée d'automne fût plutôt douce, afin de n'être pas reconnu. Il fouillait du regard tous les fiacres qui passaient. Enfin, c'était une de ces stations que les amoureux ou les jaloux ont seuls la patience de supporter durant des heures, heures étranges où il semble que l'attente paralyse et surexcite à la fois les forces intimes de la vie. La femme que l'on aime peut venir là, et cette possibilité suffit à enfiévrer tout l'être qui, dans l'espace de 5 minutes, oscille entre l'extrémité de l'espoir et celle du désespoir, du doute et de la croyance, du désir et de la terreur. Ces émotions, âcres et fortes, Bassigny les avait connues quand il aimait Madame Janson. Il les retrouvait dans cet angle de rue, ennoblis à la fois et exaspérés par ce fait qu'il n'attendait plus, comme jadis, une femme désirée et dont l'image remuait en lui les basses portions de la sensualité. C'était, l'attente d'aujourd'hui, une mise en éveil des plus hautes parties de sa nature et comme une expiation des anciennes joies et des anciennes douleurs. C'était aussi un assouvissement donné à cette passion paternelle vivant en lui jusqu'au paroxysme. Il y a un délice singulièrement intense dans le fait de se dévouer à quelqu'un qu'il ignore et qu'il ignorera toujours, qu'il ne sait même pas combien on l'aime et qu'il ne le saura jamais. Ce délice, Bassigny le goûtait à plein cœur, parmi et malgré tant d'amertume, et dans le silence de cette rue que traversaient peu de passants, il tombait dans cet état singulier de rêverie émotive où toutes nos larmes tremblent au bord de nos yeux, toute notre tendresse au bord de notre âme, à l'idée de la créature faible et désarmée que nous sommes prêts à défendre et dont nous imaginons, avec une pitié si poignante, la fragilité menacée. Il fut tiré brusquement de ce demi-somnambulisme par un incident qu'il aurait dû prévoir comme possible, puisque cette possibilité était le seul motif plausible de son guet sur le trottoir. Pourtant, ce fait nouveau le secoua d'un véritable sursaut de surprise, presque de stupeur. L'excès de la pensée et celui du sentiment empêchent que notre esprit ne reste accordé au diapason de la réalité, et quand cette réalité surgit, dans ces moments de trop grande plénitude intérieure, elle jette nos puissances volontaires dans le plus complet désarroi. Au tournant de la rue de Castiglione et de celle du Mont-Tabor, Bassigny venait d'apercevoir Maxime de Portille. Le jeune homme s'avançait du pas insouciant et joyeux d'un beau-fils qui a un joli nom, une jolie fortune, un joli visage et qui, par un joli matin d'automne, va donner des ordres pour que l'on prépare un appartement où il a un rendez-vous avec une jolie maîtresse. Déjà, il considérait Nicole de Moniaux comme telle. La dépêche bleue, par laquelle l'imprudente lui avait annoncé sa visite et dans quel endroit, pouvait-elle s'interpréter autrement? Et il cheminait, la joue rosée, les yeux gais, mince et souple dans son veston du matin, sur lequel il ne portait même pas de par-dessus. Il tenait à la main une gerbe de rose, achetée chez un fleuriste voisin, et il respirait de temps à autre l'arôme de ce frais bouquet, dont les pétales blonds ou jaunes, roses ou pâles, s'ouvriraient, s'épanouiraient bientôt, s'attiédiraient, dans la chaude atmosphère de la chambre où viendrait Nicole. Si le cœur de Maxime, déjà corrodé par la cynique expérience du grand vice parisien, avait 70 ans, ses sens en avaient 25, et il caressait son désir à ce parfum qu'accompagnerait bientôt la saveur des baisers espérés. Bassini, qui le voyait venir, n'eut que le temps d'entrer dans le premier magasin. C'était la boutique d'un relieur, très étroite et dont, heureusement, des cartonnages ouverts garnissaient l'étalage. Cette espèce de rempart, interposée entre la vitre et l'intérieur de l'échoppe, empêcha que Portille, qui jeta pourtant un regard distrait sur cette devanture, ne reconnut Bassini. Le jeune homme eut à peine passé que ce dernier, sans se soucier de l'étonnement du marchand, posa sur la table le modèle de reliure qu'il avait pris pour se donner une contenance et, s'élançant sur le trottoir, il eut juste le temps de voir celui qui l'épiait disparaître précisément dans la maison à deux entrées dont il avait lui-même, la veille, questionné le concierge. « C'est bien là qu'est son appartement, se dit le père. Il y porte des fleurs pour recevoir une femme, pourvu que cette femme ne soit pas Nicole. » Se poser une pareille question, c'était ne plus pouvoir quitter de la journée cet angle des deux rues sur lesquelles donnaient les deux entrées de la maison. Bassini héla un fiacre qui passait. Il avisa un hôtel de douteuse apparence près du carrefour et il fit s'arrêter la voiture devant cette maison meublée. C'était l'endroit où le stationnement du véhicule paraîtrait le moins suspect. Il donna une pièce d'or au cocher en lui disant, si quelqu'un de l'hôtel le questionnait, de répondre qu'il attendait un voyageur. Lui-même, enfermé dans ce coupé de louage aux vitres salies, aux coussins tachés, aux tapis souillés, il recommença de fouiller les deux rues de son regard maintenant enfiévré d'inquiétude. Combien de temps demeura-t-il ainsi, les rideaux de la voiture à moitié baissés, le front collé à la petite vitre de derrière? Il n'aurait pas su le dire. Il n'avait rien pris de la matinée, sinon une tasse de thé, bu sans y tremper même un morceau de biscuit. L'énervement du jeune accroissait encore son trouble moral. Presque aussitôt après qu'il eut adopté ce poste d'observation, il fit Maxime de Portille reparaître à l'entrée qui donnait sur la rue du Mont-Tabor et causer avec le portier. Celui-ci décrivait probablement le visiteur de la veille à son locataire pour l'avertir qu'il eut à s'en défier, car le jeune homme sembla tout d'un coup assez contrarié. Puis il haussa les épaules d'un geste qui signifiait à la fois son mécontentement et sa volonté de passer outre. Il s'en alla, mais d'un pas plus préoccupé maintenant, pour reparaître environ 3 heures plus tard, causer de nouveau avec le portier complice et rentrer dans la maison dont il ne sortit plus. Le cœur de Bassini battait à se rompre, son sang brûlait dans ses veines, sa gorge était serrée. Il sentait, l'instant du rendez-vous donné par Portille, quelle que fût d'ailleurs la femme de ce rendez-vous, était tout proche. Et cette fois encore, son pressentiment ne le trompait point. Son cœur battit à coups plus redoublés, le souffle lui manqua, un tremblement le saisit tout entier. Nicole débouchait là-bas, à l'extrémité de la rue transversale. Elle arrivait sans doute du jardin des Tuileries, de l'autre côté duquel elle avait dû laisser sa voiture. Elle marchait vite, avec cette allure, à la fois timide et décidée, d'une femme insensée que ses nerfs tendus soutiennent seuls dans l'exécution d'un projet pareil à un suicide. Elle avait négligé les précautions de rigueur dans une aventure comme celle où son amour-propre froissé et sa frénésie de révolte la précipitaient. Sa voilette courte n'était pas plus épaisse que d'habitude. Sa robe n'était pas plus sombre. Seulement, la pâleur de son visage révélait la nature douloureuse des impressions qu'elle traversait, une pâleur presque livide qui s'empourpra d'un flot de sang lorsqu'elle se trouva, soudain, à 10 mètres de la maison où Maxime l'attendait, en face de quelqu'un qui lui fit de la main signe de s'arrêter. Elle reconnut l'homme dont l'inexplicable intervention dans sa vie intime l'obsédait depuis ses 48 heures, Bassini lui-même. Son saisissement fut si vif qu'elle s'arrêta en effet, immobile de stupeur, devant ce personnage dont les traits altérés, les yeux suppliants, le geste épouvanté attestaient le trouble profond. Et déjà, d'une voix toujours étouffée et cependant distincte, il commençait de lui parler. « Non, implorait-il, vous n'irez pas là, vous ne ferez pas cette folie, vous n'irez pas là !»« Monsieur !» répliqua la jeune femme qui avait repris un peu de sang-froid. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Veuillez me laisser passer, je vous en prie. » L'extraordinaire discours de cet étranger, qu'elle connaissait pour l'avoir rencontré chez sa mère 5 minutes, lui avait donné le frisson de terreur qui nous prend devant un exalté dont nous comprenons qu'il n'a pas sa pleine raison. Elle ne savait pas ce qu'il lui voulait et, à cette seconde, elle en avait simplement peur comme d'un fou. Cette crainte se changea en une colère indignée lorsqu'elle l'entendit qui lui répondait « Écoutez-moi, je vous en conjure. C'est votre conscience qui vous parle par ma bouche. Au nom de votre enfant, n'allez pas là où vous allez. Ce Maxime de Portille qui vous attend là, dans cette maison, vous voyez que je sais tout, est un abominable homme, un misérable indigne de vous, indigne que vous lui sacrifiez ce que vous allez lui sacrifier, votre honneur, votre avenir, l'estime de vous-même, celle du monde, celle de votre fils peut-être un jour. » « Je vous répète, monsieur, interrompit Nicole, que je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ce que je sais bien, en revanche, c'est qu'arrêter une femme seule dans la rue, sans défense, pour lui parler comme vous le faites, pour l'insulter, constitue une action abominable et indigne d'un galant homme. »« Moi, vous insultez, dit Bassigny avec un accent si douloureux que, malgré sa révolte, celle qui l'interpellait ainsi en tressaillit. « Vous insultez, répéta-t-il, moi qui donnerai tout mon sang, goutte par goutte, pour que vous soyez toujours heureuse, respectée, honorée, toujours digne de l'être. Vous insultez, mais ne voyez-vous pas que pour vous parler comme je vous parle, pour me permettre ce que je me permets, il faut que je vous ai voué des sentiments bien profonds, bien désintéressés, bien élevés aussi. » Et mettant dans ce dernier appel de désespoir toute sa tendresse, « J'aurais tant voulu n'avoir jamais à vous dire cela. J'étais allée chez votre mère pour la supplier de vous parler elle-même, de vous répéter la conversation que j'ai surprise l'autre soir, au cercle, entre ce Maxime de Portille et un de ses amis. Il parlait de vous, et cet homme disait que vous l'aimiez, que vous alliez devenir sa maîtresse. Il nommait l'endroit. C'est ainsi que j'ai eu cette adresse. » Il montra de la main la maison. « Cet homme est allé des souvenirs de vous. Voulez-vous une preuve? Un petit couteau que vous lui avez donné avec une date. J'ai été pris d'une trop grande tristesse en pensant que vous, si jeune, si pure, si fine, vous alliez vous prendre à ce piège, vous perdre à jamais et pour un pareil drôle. Et voilà pourquoi j'ai été chez votre mère, pourquoi je suis ici. Et maintenant, répétez que je vous ai abordé pour vous insulter. » Nicole de Moniaud avait écouté ce discours passionné comme on entend une voix dans un rêve. On perçoit la réalité des sons qui vous arrivent et on en doute tout ensemble. La sincérité de Bassigny à cette minute était si évidente. Il émanait de lui une telle supplication de douleur. Sa voix allait chercher dans la conscience de la jeune femme des places où elle n'avait pas voulu regarder et qui se réveillaient à mesure que l'autre parlait. Elle se sentait remuée jusqu'aux entrailles et, en même temps, l'anomalie de ce sentiment qu'elle inspirait, dont elle ne pouvait pas douter, qu'elle n'avait jamais soupçonné, la stupéfiait. Le dévouement exalté de cet inconnu la bouleversait d'autant plus qu'elle n'en comprenait absolument pas la cause, quoiqu'elle la vît, cette exaltation, qu'elle le palpât, ce dévouement, si l'on peut dire. Elle ne pouvait pas douter non plus que Maxime n'eût eu l'entretien que rapportait son interlocuteur. Comment aurait-on su le petit détail du couteau d'or avec l'inscription et la date si le jeune homme avait été discret? Machinalement, tandis que Bassigny lui parlait, elle avait recommencé de marcher, mais dans le sens contraire à celui par où elle était venue. Le dos tourné à la rue du Mont-Tabor, elle se dirigeait vers la rue de Rivoli et les Tuileries, et voilà qu'elle s'écria, résumant dans cette question l'étrange malaise dont cette scène inintelligible l'avait déjà remplie. « Mais qui êtes-vous enfin, monsieur, pour prendre le droit de vous occuper de moi ainsi ?» Il ne lui répondit pas d'abord, seulement il l'enveloppa d'un regard si tendre, si éperdu d'affection, qu'elle dut détourner ses yeux. « Que vous importe ? » fit-il d'une voix altérée maintenant. « Si vous tombiez d'une barque dans la mer et qu'un homme se jeta dans l'eau pour vous sauver, lui demanderiez-vous de quel droit il agit ainsi ? Laissez-moi vous avoir sauvé et vous remercier. » C'est tout ce que je vous demande. » À cette seconde précise, pour la première fois, la vérité apparut dans un éclair à la fille de Madame Janson. Subitement, elle venait d'identifier l'homme qui lui parlait avec cette exaltation émue et l'homme qui, toute petite, le jour où elle courait aux Champs-Élysées, l'avait appelée par son nom, quoiqu'elle ne le connût pas, et embrassée en pleurant, et elle répétait, tout bas cette fois, et tremblante de ce qu'elle entrevoyait, « Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous ? » « Ah ! » s'écria-t-il, incapable de contenir plus longtemps l'émotion dont il étouffait, et avouant d'un mot le secret qu'il s'était juré de taire. « Ne l'as-tu pas senti, mon enfant ?